Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 207. Play ball!
It's a fly ball to left center field by Trout. Sitting back, Hayes near the wall. That ball is gone! Mike Trout is at the first home run of the season. He takes Corbin Burnes deep, and the Angels have a 1-0 start on opening day.
Eh bien, bienvenue, c'est l'épisode numéro 207 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très très plaisir, encore une fois, cette semaine, de vous retrouver. Et il est là avec moi, alléluia, cette semaine. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment ça va?
Salut Guillaume, salut à tous.
Bah, écoute, c'est mieux avec le micro en face de toi.
Effectivement. C'est un peu mieux, ouais.
Bon, t'as passé une bonne semaine?
Bah écoute, oui, puisque opening day. Donc qui dit opening day, dit qu'on a pu regarder du baseball à nouveau, qu'on a pu s'énerver.
Tu t'es énervé toi?
Après les arbitres, tout ça, tout ça. Donc non, ça a été.
Oh, c'est étonnant. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vite fait aux news alors, puisque on en a plein alors, vu qu'il y a eu un opening day.
Allez, let's go.
Vas-y. Tu le lances pas donc?
Non.
C'est moi qui le lance.
Vas-y.
Jingle news! J'adore cette coordination entre nous deux. C'est vraiment, on voit qu'on a l'habitude de faire des épisodes ensemble, c'est vraiment génial. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu veux commencer par les news ou tu me laisses encore me démerder tout seul?
Écoute, il y a tellement de trucs, en plus j'étais pas là la semaine dernière. On fait un petit Shohei Ohtani rapide?
Allez, on fait un Shohei Ohtani rapide, vas-y.
Bah écoute, Shohei Ohtani, c'est assez simple par rapport à tout ce que t'as dit la semaine dernière. En vrai, on est rentré dans un truc assez basique. Déjà, le temps qu'a mis la MLB à enquêter, ça porte quand même question, ça pose quand même question. Parce que on est d'accord que pour n'importe quel autre joueur, je pense que the MLB is under investigation serait arrivé beaucoup, beaucoup plus rapidement. Mais déjà, c'est la première chose, c'est la bonne chose à faire, en vrai, premièrement. Deuxièmement, on est en train de tomber dans un épisode de parole contre parole. Et c'est là où ça devient compliqué, parce qu'en vrai, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Et le discours, c'est il paye, parce que c'est mon pote. Il paye, Shohei a payé pour moi. Shohei et toute sa troupe disent, non, il m'a volé, je ne savais rien. Et en fait, c'est exactement ce que t'as dit, c'est que là, on est sur le fil rouge. C'est-à-dire que t'es sur un espèce de fil d'équilibriste. Si il paye, ment, tout va bien. Si il paye, n'a pas menti, collapse. Total. Qu'est-ce qui va se passer? Juste pour te dire un truc, deux éléments, et après je te laisse réagir. Apparemment, ce qui est sorti, c'est que Rob Manfred pourrait être le seul et unique, en gros, décisionnaire du est-ce que oui ou non il va y avoir sanction.
Mmh.
Puisque selon les lois du jeu et de la MLB, c'est de ça dont on parle. Et deuxièmement, toute la notion de dureté va être sur était-il oui ou non au courant, déjà, mais surtout, a-t-il oui ou non parié sur du baseball? Parce qu'en vrai, il y a un vrai écart de sanction entre parier sur du baseball et pas parier sur du baseball.
Ouais, en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que de toute façon, dans la, alors, t'as deux narrations qui sont en train de se, enfin, qui sont posées. T'as deux trucs en fait un peu différents. T'as la première, c'est la narration que tu as entre Shohei et Ipei, qui est complètement différente. J'ai déjà expliqué la semaine dernière ce qu'il en était. Il y a eu une première version et ensuite une deuxième qui a été annoncée. Donc voilà, maintenant les deux parties ont annoncé leur version. Je pense que ça va plus bouger, à moins que Ipei lui revienne sur ses déclarations, mais Shohei, vu l'armée de responsables PR, d'avocats, de trucs comme ça, en fait, ils ont mis une version au point. Elle est vraie ou elle est pas vraie, j'en sais rien. C'est juste qu'en fait, la narration, ils l'ont établie, ils vont pas en bouger, parce que quoi qu'il arrive, s'ils en bougent, il peut y avoir des sanctions contre Shohei, parce que s'il s'avère qu'effectivement, il était au courant, et comme c'était des paris, comme ils vivent en Californie et que les paris sont illégaux, t'as aussi tout ce truc-là. T'as pas que le fait que ce soit 4 millions 5, machin, que ce soit du baseball, parce que t'as ce qui est inhérent au baseball, mais t'as l'IRS et t'as les fédéraux qui enquêtent aussi sur le même problème, parce que En fait, c'est un problème à haut niveau des, enfin des, de pognon, donc l'IRS. Et tu as aussi, c'est un problème fédéral, puisque c'est un crime en Californie de faire des paris. Tu n'as pas le droit. Donc voilà, donc t'as plein de trucs qui rentrent en compte. La MLB a lancé son investigation en disant, bon, voilà, on va espérer. Alors, Dixit Rob Manfred, je sais pas si t'as vu, il a dit, nous espérons que l'investigation va être courte pour qu'on puisse arriver à une phase de calme beaucoup plus rapidement. Ouais, si tu veux, moi je suis pas pour.
C'est mort. On a la première manche de ce truc-là, ça va être Dallas toute l'année. J'espère pas, hein. J'espère pas.
Non mais ça le sera de toute façon. Donc moi je vais te dire, on va attendre, on va laisser voir. Mais enfin, il y a plein de trucs qui sont en jeu. Nous, j'espère juste qu'au niveau du baseball. J'espère pour Shohei, j'espère pour les Dodgers que c'est pas quelque chose qui va vraiment peser parce que ça peut être vraiment négatif. Donc voilà, on verra. Apparemment, ça a pas été négatif puisque pendant l'opening day, ils ont fait quand même les Dodgers pour parler un petit peu de baseball, quand même. Ils ont fait un truc absolument fabuleux. En fait, ils ont fait les trois premiers du line-up, donc qui sont, rappelons-le, Freeman, Betts et Shohei. On fait 5 sur 8, ils ont fait, je crois. Ils ont fait 5 ouais. sur 8 contre Saint-Louis, donc 5 sur 8 et avec 4 walks en plus. Donc, si tu veux, le 1-2-3 punch, il a été assez violent. Je crois que les Cardinals ils l'ont bien pris.
Une folie. Juste avant, Maes Mikolas qui les a traités de franchises, checkbook, ce genre de trucs, etc. Mais en vrai, on s'en fout complètement parce que si tu veux, on est dans un délire où là, j'ai vu d'autres stats totalement débiles. Le line-up des Cardinals, je crois qu'ils font un 3 sur 28.
Wow, c'est
non,
ouf.
Attends, c'est pas ça le pire. Goldschmidt, il a fait 3 sur 4.
Merde, c'est pas drôle.
C'est grave drôle. Les Angels, 1 sur 21.
Oh là là, les Home Angels. Est-ce que t'as vu un peu les... Ouais, en plus, ouais, sur le... C'est quoi, c'est le deuxième ou troisième at-bat, quoi. Son premier at-bat. Mais je crois que dans le line-up, il est troisième. Il passe en troisième, je crois, un truc comme ça. Bon, c'est un truc de fou. C'est hallucinant. Et la démonstration, en fait, faut parler de Corbin. Si on parle des Angels, on va parler de Corbin Burnes, qui a fait sa première apparition sous les couleurs des Orioles, qui fait à part justement ce hit et ce run, puisque d'ailleurs c'est le seul hit qu'il prend, donc le seul run qu'il prend. Il fait quand même, il est en 6 innings et il fait 11K. Il fait 11K pour 0 bébé. C'est pas un truc de malade, ça, pour un mec qui vient, qui arrive
non,
comme
non,
ça.
C'est une dinguerie. On a vu des très belles choses. Hein. On a vu des très 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 belles choses. Franchement, le line-up effectivement des Dodgers, c'est un délire monumental, quoi. Et ça s'arrête pas. Faut qu'on parle aussi de l'extension de Will Smith, qui est quand même le deuxième plus gros contrat de l'histoire pour un catcheur derrière Buster Posey, qui avait signé en 2013 pour 9 ans à 167 millions. Les Dodgers s'engagent 10 ans pour 140 millions.
Oui.
On a tous vu ça en disant « What ? Pour un catcheur ? Tu donnes 10 ans ?» Mais en vrai, Will Smith, c'est pas qu'un catcheur. J'ai vu passer une stat qui dit que sur les 3 dernières années, en tant que clean-up hitter, parce qu'il frappe 4, je crois qu'il a la meilleure aux pièces. Mieux que Kyle Tucker, mieux que des mecs comme ça sur les 3 dernières années. On parle d'un mec qui frappe aussi, ce qui est totalement rare chez un receveur. Donc en fait, ils ont surtout payé un mec format Mauer, format Posey, qui fin de sa carrière va glisser gentiment en première base, ou DH, et va continuer à leur apporter du bâton à 14 millions par an. Donc très honnêtement...
Alors c'est même pas 14 millions par an, parce que les Dodgers ont réussi une de leurs spécialités de cette année, c'est-à-dire la petite enculade de 2024. Enfin, certains diront que c'est une enculade. Moi, je trouve que c'est bien. Ils jouent avec les règles qu'on leur a données. Ils les utilisent jusqu'au bout. Donc après, est-ce que ça va, dans le futur, est-ce que ça va pas les plomber ou quelque chose? En tout cas, pour le moment, ça les plombe pas. Hein. Ils ont un line-up de folie. Ils ont tout ce que tu veux. Bon, ils ont des blessés aussi par dizaines, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Non, ça a été assez assez énorme. Qu'est-ce que tu as vu d'autre intéressant? Est-ce que tu as vu Juan Soto? Bah, je pense que tu l'as vu.
Attends,
que dans
on reste sur les Dodgers.
On reste sur les Dodgers. Vas-y.
On peut quand même faire le bilan. Yoshinobu Yamamoto 2035, Shohei Ohtani 2033, Will Smith 2033, Mookie Betts 2032, Tyler Glasnow 2028, Freddie Freeman 2027. Ça va. C'est pas mal. Ils ont un petit peu assuré le corps de l'équipe pour la dizaine d'années qui arrivent. Hein.
Alors, ce qui est intelligent, c'est qu'ils signent pas des vieux, tu vois, pour ces contrats de 10 ans. C'est des mecs qui vont arriver en plus.
Tu assures le corps.
Voilà, c'est ça. Ils seront pas trop vieux ou quoi que ce soit. Et après, non. Après, c'est des mecs, si à un moment il se passe quoi que ce soit, tu pourras pas revendre des contrats pareils, quoi. C'est impossible. Tu vois, c'est comme un Mike Trout. Quand il le signe, tu te dis, waouh, putain, les Angels, ils ont bloqué Mike Trout, le meilleur joueur, pendant autant de temps. Mais aujourd'hui, ils peuvent pas c'est pas entre guillemets, s'en débarrasser, quoi. Mais même s'ils veulent faire une reconstruction, ils peuvent pas avec un tel salaire. Tu vois, t'as quand même des mecs comme ça où t'as intérêt que tout se passe bien, quoi.
En parlant des mecs comme ça, on parle du fait que Scott Boras, là, avec un peu de recul, on va se dire qu'il a raté la off-season 2024. Et puis en fait, on est aussi en train de se dire que potentiellement en 2025, le mec qui va contrôler quasiment 99% des free agents intéressants ou pas.
Parce que t'appelles ça loupé. Moi, j'appelle pas ça loupé. Il a mis tous ses mecs. Il leur a fait signer des contrats qui sont intéressants, qui ont tous une opt-out pour la saison, pour
la fin de la saison. C'est ce que tout le monde dit. C'est ce que tout le monde dit.
Ah, mais moi, je suis pas d'accord avec ce narratif qu'on te fait, quoi. C'est pas vrai. Effectivement, il n'est pas eu ce qu'il voulait. C'est une chose. Mais j'appelle pas ça loupé. Ça aurait été loupé, tu vois, s'il s'était retrouvé là début de saison avec deux ou trois free agents, des gros notamment, qui avaient pas signé, qui étaient obligés justement de faire genre la braderie. Mais finalement, le dernier qu'il avait entre les mains, parce qu'il faut quand même en parler, parce que ce petit enfoiré, il nous a niqué encore un compte plein sur le dernier jour. Ouais, Jordan Montgomery qui signe pour un an, 25 millions, avec une player option à 20 millions pour 2025. Ouais, c'est énorme le coup qu'ont fait les D-backs, parce que en fait, les Giants avaient déjà frappé un grand coup en allant prendre Snell, et ils avaient rebattu les cartes du truc. Moi, c'est vrai que quand on avait fait le compte plein, j'avais même dit que je voyais pas les D-backs ressortir un petit peu la tête de l'eau et que ça allait être compliqué pour eux. Et là, bam, deux jours avant l'opening day,
tu feras un Galen Kelly Montgomery.
Oh, mais ça voilà. Pique ça, ça tend, ça pique. En plus, franchement, 25 millions pour avoir Montgomery pour une année, sans déconner, c'est pas cher. Hein. C'est.
T'as parlé de Blake Snell, mais combien d'équipes? Enfin, comment tu fais quand t'es les Yankees ou d'autres pour pas taper Blake Snell à 30 millions sur 2 ans, en fait?
Les Yankees ne le font pas parce qu'ils ont 100% de luxury tax. S'ils le prennent à 30 millions, ça veut dire qu'ils le payent 60 millions.
Combien d'équipes auraient pu faire ce move, en fait? Combien d'équipes auraient pu faire ce move pour Montgomery? Ont besoin d'un lanceur.
Mais il y en a plein, justement, qui sont critiqués pour leur gestion du truc. J'ai entendu, tu vois, ne serait-ce que les Orioles, j'ai entendu au niveau des Orioles, j'ai entendu dire, mais attendez, vous voyez combien ils le payent? Franchement, on aurait pu l'avoir. Quand tu vois que John Means, il part sur l'IL et il va y être, pourquoi les Texas Rangers, ils l'ont pas pris alors qu'eux aussi, ils vont avoir un petit peu de problème dedans, tu vois? Et au moment où tu te mets à 2 jours où personne l'a signé, je pense que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de baston pour l'avoir. Alors après, on n'est pas dans les secrets de couloir et les trucs comme ça. Il y a peut-être eu, justement, bagarre sur le truc. Mais pour que le mec, il parte à 25 millions pour une année, franchement, c'est plutôt donné, hein, quand tu vois l'année qu'il a fait l'année dernière.
Et si on rajoute que Boras va avoir Corbin Burns, va avoir Pete Alonso et toutes ces gars-là qui vont arriver à la free agency l'an prochain, mais moi je vous explique le salaire de 2025 de Scott Boras. Non mais sans déconner, c'est le PIB du Canada, hein. C'est ça qui va se passer, hein. C'est un délire, hein. Et en fait tout le monde dit ouais, il a raté. Par contre, il y a vraiment quelque chose qu'on est en train de voir, c'est il y a quand même une fâcheuse tendance de la part de la plupart des équipes à ne plus payer au long terme les lanceurs. Alors c'est peut-être la première année ou la deuxième année qu'on voit ça, donc faut qu'on se donne un peu de recul pour voir si c'est le cas, mais très honnêtement c'est une vraie tendance, on le voit là, ils ont de plus en plus de mal à payer des lanceurs sur 5, 10, 15 ans, parce qu'on sait pourquoi. La preuve, je crois qu'il y avait entre 9 ou 10 starters à l'opening day qui avaient jamais fait d'opening day. C'est pas parce que les mecs sont excellents, hein. C'est parce qu'il y a des blessés, et parce que par exemple Nestor Cortez le fait, etc., etc. Donc il y a une tendance sur le marché qui se vérifie quand même.
Ouais. On a parlé des Orioles, je vais juste faire un petit truc, on va parler un petit peu du front office des Orioles, parce que ça y est, les Orioles ont été vendus complètement à 100%. Il y avait déjà une partie qui avait été vendue le 30 janvier 2024. puisque le groupe qui était dirigé par David Rubenstein avait récupéré 60% des parts, si je ne me trompe pas, des Orioles. Et en fait, à la mort du propriétaire qui est arrivé, c'était en début de semaine, je crois. Ils ont là 2 jours, non, la veille de l'opening day, ils ont récupéré les 40%, les 40% restants. Donc voilà, c'est une page qui se tourne pour les Orioles. Je pense que la façon de gérer le club va être différente de ce qu'elle a pu être avant, où c'était vraiment une gestion familiale basée sur faire des économies.
Sur la crevardise, sachant que la partie crevardise, on a déjà vu l'opening day, on a vu des membres du board et des proprios payer des bières dans le pub aux supporters des Orioles. Donc déjà ça, c'est un truc qu'ils n'avaient jamais fait en 30 ans. Ouais. Payer un truc, clair. Tu vois. Donc c'est déjà cool. J'ai vu ça, c'est un vrai... On va voir s'il y a effet ou pas. Cal Ripken a fait le first pitch, etc. Oui. Il y a plein d'éléments qui font penser que, justement... C'est un progrès. Maintenant, on va voir. On va laisser le temps nous dire si les Orioles ont vraiment changé de mindset.
Mais on était dans la gestion des Orioles, donc je vais aller sur l'autre côte, sur la côte pacifique, parce que il y a eu un autre opening day qui était cette fois-ci à Oakland, et je sais pas si t'as vu, mais t'as les fans des A's qui ont fait encore un boycott au Colisée, parce que c'est censé être le dernier opening day des Athletics à Oakland. Donc voilà, donc ils ont fait encore une manifestation comme ils savent le faire, un lockout dans le parking avec les chants en disant sell the team, donc voilà. Plus en plus, en fait, toute une, je sais pas, parce qu'il y a aussi une association au Nevada qui se bat en fait pour empêcher les Athletics de venir, parce qu'en fait le pognon qui va être donné aux Athletics, c'est pour faire construire le stade. En fait, t'as toute une association de profs du Nevada qui dit non mais attendez, mais nous on en a besoin pour les écoles. Enfin, ce serait bien quand même que vous occupiez un peu des écoles. Donc, t'avais aussi toute une association de profs qui était sur le parking.
On parle des États-Unis et du sud des États-Unis. On va quand même pas commencer à leur apporter un petit peu de culture générale à ces gens. C'est vraiment pas le projet dans la région. Hein. Non, schématise, mais bon, il y a des trucs très tristes, mais petit signe. Est-ce que tu as vu que quand les Athletics ont annoncé sur leurs réseaux sociaux qu'Alex Wood serait le starter, ce qui traduit le niveau de la rotation, j'en veux pas à Alex Wood, mais
non,
voilà.
Bah,
hein. Un mec qui s'appelle Alexandre Bois ne doit pas commencer normalement l'opening day. Il a carrément interdit les réponses, interdit les commentaires.
Ah ouais?
Tellement le gars savait qu'il allait se faire défoncer. Il a publié et il a interdit les commentaires.
Non mais tu
c'est te dire à quel niveau de mesquinerie on est quand même.
Pour un opening day, l'opening day c'est quand même généralement, on va dire, le moment dans la saison, quasiment une fête, c'est le moment où quasiment tu as le plus de supporters qui viennent au stade, les stades sont quasiment pleins sur l'opening day. Ils ont fait, les Athletics ont fait, déjà ils ont perdu 8-0 contre les Guardians, et en plus ils ont fait la plus basse, le plus petit nombre de visiteurs dedans, puisqu'il y a que 13 522 fans qui étaient au Colisée, sachant qu'il y en avait quasiment deux fois plus qui étaient sur le parking. Donc voilà, je trouve ça, voilà, on a parlé des Orioles, on a parlé des A's. Moi, je pense qu'il y avait les deux, c'était vraiment les plus différents.
Vas-y. Je peux te faire un petit. Est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on n'a pas vu ou pas?
Vas-y. Tu me le gardes pas est-ce en connerie, ça.
Non, j'ai d'autres choses pour la connerie. J'ai un petit quiz comme d'hab. Est-ce qu'on a vu au spring training un panda frapper pour la dernière fois un hit avec les Giants?
Ben, Pablo, oui.
Tu l'as vu, qui frappe un hit, il a été repris juste pour faire ses adieux. Il frappe un hit, c'était le dernier at-bat certainement qu'il allait avoir avec les Giants. Bien sûr, il ne fera pas le roster comme quasiment tout le monde l'attendait, et certainement même lui. Il vient, il frappe son base hit, il chope son ovation, et c'était son dernier at-bat avec les Giants. Moi, j'aime l'histoire, donc voilà, c'était la petite question. Est-ce qu'on a vu, je n'étais pas là, mais dans les Korean Series, un mec qui s'appelle Chun Ho Park, donc un joueur de baseball coréen, lançait le first pitch avec un maillot qui disait Padres à gauche. Maillot des Padres cousu avec à droite le maillot des Dodgers. Est-ce qu'on a vu ça?
Bon, j'imagine que oui, on a dû le voir.
On a vu cette merde. Je veux dire, deux équipes qui se détestent. Et le gars, les gars, ils vont en Corée, ils ne respectent rien. Ils lui font un maillot mi-Dodgers, mi-Padres. Mais le truc, mais incompréhensible,
Mais
quoi, tu
oui, mais
vois.
t'es au pays de Samsung, donc c'est normal qu'ils te fassent une pub pour les pagers, c'est normal.
Les
Oh, elle est mauvaise
Pagers, quoi. Ah ouais, celle-là, elle est nulle, du coup, je ne rebondirai même pas dessus. Est-ce qu'on a vu Pete Rose dire que il aurait adoré en son temps avoir un interprète?
celle-là. Alors, si on l'a pas vue, elle est trop bonne, celle-là. C'est une des meilleures vannes de
L'a vu.
l'histoire, quoi.
On l'a vu. Je crois que c'est la vanne que je préfère de toute cette année. Qui dit en gros, si j'avais un interprète, je serais passé tranquille et je serais Hall of Fame, quoi, tu vois. Parce que c'est lui quoi à tout prix. Elle est bien
Elle est
celle-là, non?
trop belle. Elle est trop belle, celle-là. Franchement, j'ai kiffé, quoi.
Est-ce qu'on a vu les joueurs de MLB en opening day, donc notamment les joueurs de New York, laisser apparaître sur leur maillot de baseball, chose qui n'arrive jamais, maillot Fanatics, des énormes traces de sudation dues à la qualité très très fine du tissu utilisé sur les maillots des Fanatics?
Non, j'ai pas vu ça.
Eh ben on l'a vu.
C'est vrai?
C'est-à-dire que les mecs, ils ont joué un match de baseball, t'as l'impression qu'ils ont fait un marathon. Normalement, les maillots de baseball sont tellement épais et puis t'as des undershirts et tout, tu vois pas la
Ah,
transpiration. Mon
j'ai même pas
pote,
fait gaffe.
bah moi j'ai vu un post, les maillots ils sont dégueulasses.
Donc pourtant,
Voilà, ils sont.
j'ai pas regardé tout le match des Yankees contre les Astros, mais j'ai vu la fin et j'ai vu les trois dernières manches et non, j'ai pas fait gaffe. Ça m'a pas sauté aux yeux.
Est-ce qu'on a vu. Bon, on va arrêter avec le est-ce qu'on a vu, parce qu'en vrai, là, j'ai d'autres petits sujets, mais d'autres petites questions. Je sais pas si t'as encore d'autres news à partager avant qu'on passe à la connerie.
Oh, j'ai plein de petits trucs en vrac. J'ai les
Allez,
Diamond,
vas-y.
j'ai les D-backs qui ont battu le record de franchise avec 14 runs en une manche face aux
Ouais.
Rockies. Voilà, bah écoute, bravo les Rockies.
Il leur faudrait 15 runs lors du second match, au moment où on enregistre, pour battre le record de runs sur deux matchs.
Dans la même manche, ils ont fait. Donc il y a 18 joueurs qui sont passés. Les 18,
Ouais, c'est une
c'est-à-dire qu'il y a
folie.
eu deux tours complets au bâton. Il y a eu 13 hits, donc 10 simples, 3 doubles et 2 bébés. Mais c'est un truc de fou. Et je crois que ceux qui avaient le marqué le plus, il y avait eu 17 runs en une manche en 1953 des Red Sox face à Détroit. Il y avait eu 16 runs des Rangers face à Baltimore en 96 et 15 runs des Dodgers face à Cincinnati en 52. Enfin voilà. J'avais des petites nouvelles de Wander Franco pour dire que bah il allait pas jouer, il est en administrative leave jusqu'au 1er juin. Donc voilà, c'était pour vous donner des nouvelles et pour dire que ceux qui dans les fantaisies qui vont drafter Wander Franco, c'est pas une très bonne idée, ça va pas servir à grand-chose.
Attends, il faut qu'on parle de ça, parce que du coup, je sais pas si t'as vu, mais j'ai adopté une nouvelle technique pour cette année, Guillaume. J'ai adopté la technique du champion de l'an dernier. Je n'ai pas drafté. Non, je ne me suis pas présenté à la draft. Donc c'est quand même assez savoureux parce que j'ai Aaron Nola, Tim Anderson, Eduardo Rodriguez dans mon équipe. Que des joueurs que je mets toujours au devant,
Alors,
magnifiquement dans
Aaron
la
Nola,
saison.
personne n'a rien dit parce que je pense que vraiment, vu le niveau du pec, je pense que tout le monde s'est dit, ouais, c'est comme moi quand j'ai pris Bieber alors que je l'avais clashé la semaine d'avant, tu vois,
C'est
c'est un peu
ça.
la même chose. Mais par contre, quand Tim Anderson, j'ai vu qu'il était apparu dans ta fantasy, j'ai fait, ah ouais, non, mais soit il est en chien parce qu'il a vraiment besoin d'un shortstop, soit vraiment c'est pas lui qui a fait le pic, quoi.
Ah non, j'étais en autopic total. Donc voilà, j'ai même pas. Je crois que j'ai déjà fait tous mes moves cette semaine, un petit peu au hasard en vrai. Je pense que la saison elle va être très longue au niveau fantasy, Guillaume. Je te l'annonce, vu le temps que j'ai à. Déjà quand j'ai du temps, je suis nul. Mais alors quand j'ai pas de temps. Peut-être que je vais faire comme toi, je vais couper au mois d'août pendant 3-4 semaines.
C'est une
Je suis
bonne
sûr,
solution.
ouais, je vais y arriver, je vais y arriver.
Et sinon, tu
En
coupes
petit.
maintenant et tu reviens au mois d'août pendant 3 semaines seulement. Tu peux faire ça aussi, hein.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. En petite chose, est-ce que tu as
Ouais.
$52 sur toi?
Alors, qu'est-ce que tu vas me dire comme blague? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec
Est-ce que tu as
52 $?
$52 pour toi?
Sur moi, non, mais je peux aller les chercher à la banque.
Puisque je te propose d'aller voir un match des Miami Marlins où pour $52, tu peux avoir un All You Can Eat Seat Game Ticket où ils ont des hot dogs, des chili dogs, des nacho cheese, des chili nachos, des cheeseburgers, des popcorn, des peanuts, des cookies, des non-alcoholic beverages and water. C'est le seul truc qui fait que toi, tu n'iras pas parce que c'est non-alcoholic beverages and water. Voilà, on va pas se mentir. Tant qu'il n'y a pas du Ricard dans l'eau, ça se boit pas. Mais tu peux aller voir autant que tu veux jusqu'à la fin de la septième manche pour bouffer comme un Américain. Et juste un truc, petit
conseil.
À quel
moment tu restes assis pour regarder le match si tu fais un all you can eat et qu'il faut que tu te lèves pour aller chercher ta bouffe? C'est pas intéressant, faut qu'il y ait quelqu'un qui te l'amène en permanence, quoi.
Parce que tu crois que les mecs qui vont au stade, ils vont pour voir le match.
Mais,
c'est surtout qu'à la deuxième manche, tu peux plus te lever. Moi, j'ai vu les réseaux sociaux montrer les plats, commercialisés et vendus par les clubs. J'ai vu un rainbow cake, entouré de chocolat et de peanuts des Mets, mais j'ai envie de dégueuler. J'ai vu des hot dogs avec le hot dog, Guillaume, il fait la taille de mon bras et dessus ils ont mis des empanadas. Parce que le hot dog ne suffisait pas. Voilà. C'était juste que c'était un peu relou. Moi, après, une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, j'arrête de donner des news parce que en vrai, ça donne envie de dégueuler.
Moi, après, j'ai quoi comme autre news? Il y a Juan Soto qui a fait un retrait en outfield qui était mortel. Qu'est-ce qu'on a vu? Tyler O'Neill qui frappe un home run dans son cinquième opening day consécutif. Pas loin d'être un record. Josh Hader qui fait ses premiers matchs. Trout qui bat encore un record des Angels. Donc voilà. Bon, il y a pas mal de trucs, mais je vais pas tout dire. On va passer à la connerie, Mike? On met le petit générique,
ouais.
Passe à la connerie?
Dernière petite chose, je sais pas si t'as vu, mais il y a des candidatures pour les deux premières promotions du Temple de la Renommée pour la Fédération Française de Baseball.
D'accord, non, j'ai pas
donc
vu.
Donc déjà, c'est un truc qui est important. Dans le comité de décisionnaire, il y a à peu près toute l'équipe de The Strikeout.
C'est vrai?
D'accord. Ouais. Et tu vois, c'est là où tu vois qu'ils sont quand même intelligents, parce qu'ils nous ont pas appelés, ils nous ont bien fait, parce que moi, je mets ma candidature directe. Je te le disais, ah ouais, allez, tout de suite. Et je sais pas si t'as vu, mais.
Mais il n'y a pas de Hall of Fame régional, c'est pas possible. Il n'y a pas de Hall of Fame de R3.
Mais même Hall of Fame R3, je suis pas dedans.
Non, c'est clair.
Est-ce que tu as vu aussi que. Je connais une vedette. T'es au courant ou pas?
Tu connais une vedette? Ouais. Tu me déclares ça en faisant t'es au courant. Comment veux-tu que je sois au courant de quoi que ce soit? Non, bah non.
Je connais un influenceur YouTube.
Non, moi je savais pas que tu connaissais un influenceur YouTube.
Ouais, je connais l'influenceur YouTube, le premier et le seul influenceur OOTP français de toute l'histoire de la Terre. Les gars, j'ai vu un mec, il a fait des vidéos, il monte des tableaux Excel pendant 8 heures. La gueule du contenu, sans déconner, et je vais pas te mentir. Hein. Hier, j'ai vu une affiche. Le rendez-vous international des coquillages, c'est pas une vanne, ouais. Ça existait vraiment dans une ville par exemple chez moi. Je me suis dit que c'était limite plus intéressant qu'aller voir des tableaux Excel pendant 8 heures sur YouTube.
Quel enfoiré!
Ça, c'est juste la haine parce que je ne suis pas inclus dans le projet, que j'ai demandé à ma entreprise à le faire, qu'on m'a refusé.
Quel gros mytho! Oh putain, t'es vraiment un menteur. Bon, allez, sur ce, je vais le générique et on se retrouve juste après. Are you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? The fuck is with this guy? Who is he? Bon, bah, c'est bien parce que t'as déjà dit plein de conneries. Quelle est celle que tu vas me sortir cette semaine?
Allez, on se fait un petit quiz opening day.
Allez!
Ça te va?
Allez, vas-y, c'est parti.
Allez. Petit quiz opening day. Est-ce que tu peux me citer sur l'opening day d'hier et d'aujourd'hui, hein, on enregistre parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas encore joué. Au niveau des positions, les mecs qui vont en 2024 avoir le plus d'opening day start par position. C'est clair ce que je t'ai dit ou pas?
Non, pas du tout.
Super. En gros, je te dis qui dans les joueurs actifs cette année vont. Qui est le troisième base qui a fait le plus d'opening day?
Ah, qui a fait le plus d'opening day?
Il en a fait 10.
Arenado.
Oui, yes. Le deuxième base, il en a fait 11.
Altuve.
T'as le truc devant tes yeux ou pas?
Non, absolument pas.
Le catcher, il en a fait 9.
Real Muto.
Salvador Perez. Le center field, il en a fait 11.
C'est pas Byron Buxton.
Si, il est toujours là, la Pning Day. Byron, mais non, c'est pas lui. C'est pas lui.
Je sais pas du tout.
Mike Trout.
Ah oui, putain, Mike Trout. Mais je savais même plus qu'il jouait en champ centre. Je pensais qu'il était DH.
Moi, je pensais qu'il jouait plus. Le starter qu'on a fait 12.
Il y a quelqu'un qu'on a fait 12. Mais Richie, ouais. Il lance pas.
Il fait pas les
You Darvish.
Day, Richie.
Non, pas You Darvish.
Hey, Richie, il fait pas les opening day. on va pas se mentir.
Non, il fait 5 jours après l'opening déjà. Ouais.
Lui, généralement, il fait AJ5, lui. Mais c'est Justin Verlander.
Justin Verlander. Mais il a pas lancé en opening
day. Non, il va pas le faire, mais c'est lui, excuse-moi, c'est le joueur actif qui a le plus d'opening day.
Ah, okay,
first
d'accord.
Base. First base. Attention, il y a un piège.
First base, il y a un piège. Ouais. C'est un mec qui a pas joué tout le temps first base alors.
Non. Le piège, c'est qu'il y en a un qui, je crois, aurait pu être éligible à cela, mais il a signé un contrat de minor league.
Ah, il a joué photo?
Ouais, mais c'est pas lui du coup, parce qu'il y a un piège. Il est con.
Ah bah oui.
Le gars est con.
Pas Brandon Lowe parce qu'il est blessé.
Freddie Freeman.
C'est lui le plus.
Freddie Freeman, on a déjà fait 14, mec. Ça fait 14 ans qu'on voit Freddie Freeman
sur le terrain.
C'est un délire. Hein.
Oh, ouais, c'est un délire. Vache, putain, mais il vieillit pas, le mec, délire. Quoi.
Allez, qui est le mec qui, dans l'histoire, a fait le plus de starts à l'opening day? C'est un lanceur connu essentiellement
Ryan.
Pour
Nolan
sa carrière
Ryan.
Chez les Mets.
Nolan Ryan. Bon,
non, chez les
mais
Mets.
C'est pas juste. Mais il y a joué chez les Mets. C'est là qu'il a commencé.
Oui, non, mais il n'est pas connu. Ah. Ça. Il est plutôt connu Astros et Rangers, Nolan Ryan.
Ouais, oui, oui.
Voilà. Donc,
Max, non, pas Max Scherzer.
Allez, Tom Seaver, il en a fait 16, mon ami.
16 ? Ah, non, je ne l'avais pas, Tom Seaver. Tu vois, je ne l'avais pas du tout.
Qui a le plus de strikeouts sur un opening day ? Lancé.
Ah, lancé, parce que sinon j'allais me dire Luis Suarez, ça marchait
plus
pas.
Plus connu pour les Saka chez les D-Backs et chez les Mariners notamment.
Ah, mais oui, c'est The Big Unit.
C'est Randy Johnson. Randy 107. Johnson.
De quoi 107K en, ouais, juste en ouais. Lançant les opening day.
Juste sur les opening day. Ouais, et il a jamais croisé Joey Gallo, t'imagines. Qui a joué le plus de matchs d'opening day? C'est un joueur de position.
D'accord.
C'est un joueur qui aurait adoré avoir un interprète.
Ah, c'est Pete Rose.
23.
Cette carrière. Tu m'étonnes qu'il soit le recordman du nombre de hits.
Qui a frappé le plus de home run en opening day?
Ouh.
Ils sont 3. Et c'est 3 Hall of Famer. Petit doute sur le premier.
Yogi Berra?
Non. Il y en a un, c'est mon favorite. Tu le connais.
Yadi?
Non. Mon favorite all time.
Ton fait. Ah, Ken Griffey Jr.
Ouais. L'autre n'est pas Hall of Famer. C'est Adam Jones. Il en manque un. C'est Frank Robinson. 8 home run. Ouais. Qui a le plus de hits? Ça va avec le plus de matchs.
Bah, Pete Rose.
31.
Ouais, bon, attends, ouais. C'est Pete Rose, c'est normal. Il a déjà le plus
et
de
hits
sur la carrière.
Et le plus de RBI. Donc... Le plus de RBI?
Pas Ichiro. Pete Rose.
Non, mais généralement, quand tu frappes beaucoup de home run et que t'es clean up, tu vois, c'est Adam Dune. Il en a 21.
21? Waouh, c'est 21. Énorme.
21, c'est énorme. Et les meilleurs batting average, c'est Adrian Gonzalez, Jeff Kent et Gabby Hartnett qui ont 467 en opening day en average. La meilleure ERA, c'est Bob Feller des Indians de l'époque, 1,21. Et le plus de wins, c'est Walter Johnson avec 9. Voilà, c'était tout. Mais en vrai, j'ai vu des stats et je me suis dit, quand j'ai vu Freddie Freeman, ah oui, le DH qui actif qui en a fait le plus, tu sais qui c'est?
Le DH actif qui en a fait le plus?
Ouais.
Non, je l'ai pas non plus.
Au poste de DH, du coup, c'est JD Martinez avec 6 seulement.
Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Bah, c'est pas énorme quand même. Comme quoi, c'est pas, tu le fais pas souvent en DH. Il en a plus que Ortiz?
Bah, il faut croire. Non, Ortiz, il est plus actif.
Ah, des actifs. Ok, d'accord. Bon, c'est tout, Mike.
C'est pas que t'as compris les règles à la fin. Ouais, c'est tout.
Merci beaucoup, Mike. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Et Mike, bah, la question devient rituelle, voire vraiment, c'est un peu laborieux. C'est pas du tout le mot que je voulais dire, mais je le dis quand même. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine, Mike?
Je ne peux que te dire Inch'Allah, parce que en vrai, toi-même, tu sais, on ne sait pas ce qui peut se passer, tu vois. J'ai raté la draft parce que j'étais au téléphone avec Chocho pour voir quel allait être le discours de la conférence de presse. Je suis un peu sur tous les fronts, je peux pas tout faire, je dois faire des choix dans cette vie, Guillaume. Et...
N'importe quoi. Bon, allez. Sur ce, bah, je vous souhaite de passer une bonne semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.
Et Guillaume, n'oublie pas, les comptes pleins. Hasta l'anno próximo, je parle pas espagnol, à l'année prochaine quoi, parce que c'est bon, on est débarrassé de cette merde.
Allez, ouais, gros bisous et à très vite, ciao. Infield moves back. Baseball, unbelievable!